Bonjour, bienvenue en cette journée mondiale de la radio. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'actualité sur la planète grâce au reportage de la rédaction, bien sûr, car vous savez que RFI vit au rythme du monde.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Beldic.
Nous partirons ainsi pour la Birmanie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Centrafrique ou le Sénégal, par exemple. Cette semaine, notre invité est Renaud Van Rumbeek, l'ancien juge d'instruction, ancien doyen du pôle financier au tribunal de Paris. Il vient d'écrire « Mémoire d'un juge trop indépendant » chez Talendier. Et avant d'écouter Renaud Van Rumbeek, commençons notre voyage en Haïti. La crise politique perdure entre le pouvoir et l'opposition. Des opposants et des organisations de la société civile se sont choisis un dirigeant par intérim depuis dimanche, date à laquelle ils considèrent que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin. Le juge qui avait été arrêté dimanche avec 22 autres personnes sous le prétexte de tentative de coup d'État a été libéré et la police a sévèrement réprimé une manifestation de l'opposition, s'en prenant aussi aux journalistes à Port-au-Prince mercredi, Amélie Baron.
À bas la dictature. Les manifestants partis de la faculté d'ethnologie ont voulu plaider pour la défense de la démocratie, comme l'explique Ben Skadé.
Cette méthode, c'était celle du dur régime de 1957 à 1986. Quand il y a des opposants qui bataillent, la meilleure façon de les éliminer, c'est de les accuser de fomenter un coup d'État. On fait le parallèle entre les techniques des Duvalier père et fils et celles que l'apprenti dictateur Jovenel Moïse essaie d'utiliser.
Les policiers ont multiplié les tirs de grenades lacrymogènes contre le petit cortège, puis ont ciblé les journalistes à plusieurs reprises. Sénat André Duflo témoigne.
Leur travail, c'est de tirer sur les militants, lancer du gaz à toute la presse. On a tous constaté qu'ils ont déposé une lacrymogène à l'arrière du pick-up de la voiture de Télépacifique. On dit non à la dictature. Quand une démocratie est en danger, c'est comme si les démocraties de tous les autres pays étaient en danger.
C'est comme si l'on dangerait dans tout notre pays.
L'association des journalistes haïtiens appelle la police à enquêter pour, je cite, « identifier les auteurs de ces exactions afin qu'ils répondent de leurs actes ».
Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. On ne dira jamais assez à quel point elle est indispensable, cette radio, pour être informée, pour se cultiver, se distraire aussi, quand du moins on vit dans une démocratie pleine et entière. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le moins que l'on puisse dire en Afrique, en Asie et même en Europe. En Hongrie, la première station de radio indépendante du pays, Club Radio, va en effet cesser d'émettre demain, car le renouvellement de sa licence ne lui a pas été accordé. C'est une nouvelle atteinte à la liberté de la presse dans ce pays de l'Union européenne, Cléa Broderst.
Dimanche 14 février au soir, les Hongrois ne pourront plus capter les ondes de Club Radio. Le responsable de la radio indépendante, qui diffuse souvent des contenus critiques vis-à-vis du gouvernement de Viktor Orban, a dénoncé une décision politique honteuse et lâche du tribunal municipal de Budapest. Suspendre Club Radio constituerait un signal très inquiétant en termes de liberté d'informer et d'être informé, a averti mardi la diplomatie française. Nous appelons la Hongrie à respecter ses engagements européens en la matière. En septembre dernier, le Conseil des médias hongrois, le puissant NMHH, qui regroupe toutes les entreprises liées au domaine de l'information dans le pays, avait refusé de prolonger la licence de Club Radio car la station aurait soumis à deux reprises en un an des documents administratifs en retard. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir met des bâtons dans les roues des médias indépendants hongrois. Nombre d'entre eux ont fermé, d'autres ont été repris par des proches du gouvernement, comme le principal site d'information Index, dont les journalistes avaient démissionné avec fracas à l'été 2020.
Et puisque nous parlons radio, je salue un confrère, Hassan, auditeur de l'émission et journaliste à la rédaction francophone de la radio marocaine, chaîne Inter. Bonjour Renaud Van Rumbeek.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance, malheureusement, mais les circonstances l'exigent. Je l'ai dit, vous êtes ancien juge d'instruction, ancien doyen du pôle financier au tribunal de Paris, et vous êtes l'auteur de « Mémoire d'un juge trop indépendant » chez Talendier. Alors, Renaud Van Rumbeek, sachant que vous veniez dans l'émission, des auditeurs se sont déjà manifestés par message, et l'un d'entre eux, Herman, nous dit qu'il faut avoir du cran pour être juge d'instruction. C'est aussi votre avis ?
Bah, comme pour être journaliste indépendant, comme si on veut faire son métier d'une façon totalement indépendante, il faut avoir un minimum de principes et s'y accrocher. Voilà. Maintenant, on a la chance aussi en France. Vous parliez de pays comme Haïti, etc., qui n'est pas une dictature. Donc, la justice est certainement beaucoup plus libre en France que dans que dans ces pays-là, et on a besoin d'une justice libre et indépendante.
Mais est-ce qu'il vous a fallu parfois une dose de courage pour essayer de faire correctement votre travail ?
Il a fallu subir des attaques verbales, évidemment, des accusations d'hommes politiques, de partis politiques, subir aussi les freins du parquet, des procureurs, je parle dans les années 90, où là, c'était extrêmement difficile de remonter les filières dès lors qu'on s'attaquait à des dossiers politico-financiers. C'était difficile de remonter jusqu'au vrai responsable. Donc, c'était pas simple. Il fallait être un peu obstiné. Il fallait vouloir aller au bout de ces enquêtes et faire comme si les attaques n'existaient pas. Mais elles existaient de fait. Donc, des critiques qui étaient d'ailleurs totalement infondées, mais qui avaient pour but de me discréditer.
Alors, vous avez suivi, étudié des dossiers chauds, comme on dit aujourd'hui, sensibles. L'affaire Urba, par exemple, le financement du Parti Socialiste. ELF, évidemment, vous avez fait partie de l'équipe de juges, de magistrats qui ont enquêté sur cette énorme affaire. Vous avez aussi traité le dossier des frégates de Taïwan, l'affaire Clearstream également. Donc, vous avez instruit des affaires sensibles. Et notamment cette fameuse affaire ELF avec ses ramifications au Congo-Brazzaville et au Gabon. Quel souvenir conservez-vous de ce dossier ? Un goût d'inachevé, dites-vous ?
Oui, un goût d'inachevé. Alors, c'est vrai que ce dossier portait sur les enrichissements qui étaient reprochés aux dirigeants de l'entreprise. Mais il y avait deux autres aspects qui me paraissaient importants et que j'ai voulu creuser au maximum. C'est d'une part tout ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire les distributions qu'il a pu y avoir en faveur de dirigeants de pays africains. Et puis, d'autre part, les rétro-commissions, c'est-à-dire la partie des commissions qui pouvaient être reversées en France à des partis politiques. Parce que, la CTLF avait une grosse caisse noire, appelé comme ça, qui existait en Suisse et qui permettait d'alimenter des commissions qui n'étaient déclarées nulle part. Hein, c'est-à-dire que voilà. Alors le premier aspect, celui de la France-Afrique, je me suis heurté au secret défense et je n'ai pas pu. J'étais un petit peu bloqué dans mes investigations parce que figurez-vous que cette affaire, les faits avaient eu lieu dans les années 95, si j'ai bonne mémoire, et que la corruption d'agents publics étrangers n'existait pas en France à l'époque. Elle n'a été introduite dans la législation française qu'en 2000. Donc toutes les distributions qu'il y a pu y avoir au profit de dirigeants africains via la société ELF n'étaient pas répréhensibles à l'époque. Vous voyez, donc là aussi, on a changé un petit peu notre mode de pensée aujourd'hui, puisque sous la pression internationale, la France a été obligée quand même d'appliquer, de créer ce délit de corruption d'agents étrangers, de corruption qui peuvent viser des dirigeants de pays africains ou d'ailleurs. Hein, et jusque-là, c'était non seulement toléré, c'était défiscalisé, hein, mais c'était pas une infraction pénale, voyez.
Ce qui veut dire, Renaud Van Rubeck, que l'appel que vous avez lancé avec d'autres magistrats en 96, que l'on appelle aujourd'hui l'appel de Genève, a eu son effet.
Oui, bien sûr, il a eu son effet et tant mieux. Et il y a aussi, je dirais, cet appel s'inscrit dans tout un mouvement qui proteste, qui prend conscience d'abord de cette corruption, hein, dans des pays où certaines élites s'enrichissent sur le dos de la population qui vit dans la plus grande misère. Et tout ça avec la complicité des entreprises occidentales qui arrosent par des intermédiaires, alors évidemment avec des écrans dans des paradis fiscaux, etc., ce qui rend cette corruption très difficilement détectable. Voilà, mais depuis, il y a quand même une prise de conscience, il y a eu des avancées, mais on est loin du compte. Il y a encore aujourd'hui de nombreux dictateurs qui ont des grandes fortunes qui sont cachées.
Nous allons en reparler dans un instant.
Sept jours dans le monde.
Et nous continuons notre voyage, Renaud Van Ruymbeck. Depuis une semaine, les Birmans descendent par dizaines de milliers dans la rue. Vous le savez, ils l'ont fait mercredi notamment, au lendemain d'un raid de nocturne de l'armée contre le siège du parti d'Aung San Suu Kyi. Une action qui montre la détermination des généraux putschistes face aux appels pour rétablir la démocratie. Reportage à Rangoon de Juliette Verlin.
Il est à peine 9h et des milliers de manifestants continuent d'affluer devant le bureau du programme des Nations Unies pour le développement à Rangoon. Des musiciens ont ramené des tambours pour rythmer les chants révolutionnaires juste devant le portail du bureau. Et à côté, plusieurs manifestants sont allongés sur le sol avec des pancartes disant « Je me réveillerai quand Min Aung Hlaing sera parti ». San San est venue pour tenter d'attirer l'attention de la communauté internationale. La jeune femme explique ne plus vouloir manifester dans les rues, mais plutôt directement devant le bureau, plus à même selon elle de donner de l'importance à sa voix. Devant les dizaines de photographes qui sont déjà présents, elle prend la pose avec sa pancarte sur laquelle est écrit « Pourquoi aller à l'école si le général Min Aung Hlaing s'en fiche de mon futur ?» Pour Thun Luynh, membre du département des transports, c'est surtout la Chine qui devrait intervenir. Ce pays voisin entretient d'étroites relations économiques et politiques avec la Birmanie, et d'après Thun Luynh, la Chine a le pouvoir de faire plier l'armée. Devant l'absence de réaction officielle des dirigeants militaires depuis le coup d'État, certains Birmans cherchent d'autres solutions pour faire progresser leur cause.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Des images choc inédites et des accusations lourdes. Lors du procès en destitution de Donald Trump, les sénateurs ont replongé dans l'angoisse qu'ils avaient vécue le 6 janvier lors de l'assaut du Capitole. Les procureurs ont attaqué avec force l'attitude de l'ancien président qu'ils ont clairement rendu responsable des émeutes. Compte rendu avec notre envoyé spécial permanent à Washington, Anne Corpé, jeudi.
Trump knew exactly what he was doing in inciting the January 6th mob.
Trump savait exactement ce qu'il faisait en incitant la foule le 6 janvier, assure Jamie Raskin. Et le procureur démocrate remonte le temps, explore les discours de Donald Trump, sa manière d'exciter les foules, d'attiser les braises de la colère de ses partisans, d'excuser leurs actes violents avant d'interroger les sénateurs.
Est-ce qu'il y a un responsable politique dans cette salle qui croit que si le Sénat l'autorise à revenir un jour dans le bureau ovale, Donald Trump cessera d'inciter à la violence pour obtenir ce qu'il veut ?
Les preuves sont claires, assure le représentant John Aegus, un des orateurs les plus remarqués du camp démocrate. Donald Trump n'a pas agi pour nous défendre. Cela requiert plus que jamais la condamnation et la disqualification. Pour les démocrates, il s'agit bien d'empêcher Donald Trump de retourner un jour à la Maison-Blanche. L'ancien président est présenté comme un danger pour la démocratie. Selon les démocrates, l'image même de l'Amérique dans le monde dépendra de l'issue de ce procès.
À suivre également dans nos journaux. Renaud Van Ruymbeck, le journal Le Monde et 16 autres médias partenaires ont mené une enquête durant plus d'un an sur les pratiques fiscales du Luxembourg. Les auteurs de l'enquête, baptisée OpenLux, accusent le Luxembourg d'être toujours un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Donc, Patricia Lecomte.
Dans cette vaste enquête publiée par plusieurs journaux européens, il apparaît que parmi les 140 000 sociétés immatriculées actives au Luxembourg, soit une pour quatre habitants, 90% d'entre elles sont détenues par des non-résidents et 33% sont des holdings abritant des actifs permettant à ses détenteurs d'échapper à l'impôt. Derrière ce nouveau scandale de fraude et d'évasion fiscale se cachent des multinationales, dont des entreprises du CAC 40, des milliardaires, des sportifs, des artistes, des politiques, mais aussi de l'argent d'origine criminelle. Selon les auteurs de l'enquête qui ont passé au peigne fin 4 millions de documents, 6 000 milliards et demi d'euros d'actifs auraient trouvé refuge dans ces sociétés offshore de 2018 à 2019. Cette somme faramineuse correspond à 100 fois le PIB du Luxembourg en 2019, petit pays qui compte 600 000 habitants. Troisième place financière en Europe derrière Londres et Zurich, le Luxembourg avait pourtant pris des engagements vis-à-vis de ses partenaires européens en matière de transparence et de fair-play fiscal, sans toutefois revoir sa pratique. Cette distorsion au sein de l'Europe fait perdre aux autres pays membres des milliards d'euros de recettes, des milliards dont ses voisins vont avoir besoin pour financer les différents plans de relance dus à la crise du Covid.
Vous écoutez RFI, merci. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Renaud Van Ruymbeck à distance, mais il est là quand même. Renaud Van Ruymbeck, vous écrivez dans votre livre que la situation du Luxembourg est assez particulière. On a quand même l'impression, si je puis m'exprimer ainsi, que plus ça change, plus c'est la même chose, non ?
Ah ben, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Luxembourg, on voit bien, l'enquête du Monde le révèle, qu'ils ont pris des engagements, ils font partie de l'Europe, etc. Et on s'aperçoit qu'ils continuent leurs anciennes pratiques. Alors voilà, ça, c'est toute l'hypocrisie du système dans lequel on se trouve. Et je trouve ça désolant de constater qu'au sein même de l'Europe, où vous avez quand même des démocraties, on ne soit pas capable d'harmoniser nos législations fiscales et de faire en sorte que l'argent sale ne cesse de trouver refuge au sein même de l'Europe. C'est ça qui est absolument aberrant. Alors avant, on disait, il y a Londres, il y a la City, il y a la Suisse, il y a Liechtenstein, il y a les îles anglo-normandes. Oui, il y a plein de refuges. Et justement, c'est ce que je propose dans le livre, justement, parce que j'essaye d'avancer, c'est de proposer des solutions pour en sortir. C'est-à-dire que je pense que l'Europe doit faire le ménage en son sein, doit imposer des règles de transparence et pas se contenter d'engagements, mais s'assurer qu'ils sont effectivement tenus et en tirer toutes les conséquences. C'est seulement à ce prix-là que l'Europe pourra émerger et avoir du crédit. Et alors vous me direz, si l'argent, s'il part du Luxembourg ou de la Suisse ou de Liechtenstein, il va aller ailleurs. Hein. Il va aller, on l'a vu d'ailleurs, il va aller à Singapour, il va aller à Hong Kong, peut-être plus aujourd'hui, au Liban, peut-être plus aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même tout un mouvement au Liban et puis l'économie s'est écroulée, les banques sont écroulées, mais il y a d'autres refuges.
Dubaï, par exemple, vous pointez Dubaï.
Exactement. Ah ben Dubaï, c'est le nouvel Eldorado, c'est parfait Dubaï, parce que personne ne penserait comme ça a priori classer Dubaï dans les paradis fiscaux. Il faut quand même savoir que Dubaï, lorsque nous, juges, nous procédons à des enquêtes dans des affaires pénales et que nous demandons une assistance à Dubaï, c'est-à-dire en clair les relevés de comptes de personnes qui ont détourné de l'argent et qui l'ont mis à Dubaï, on n'a aucune réponse, mais aucune réponse. Et puis, mieux que ça, les personnes qui s'installent à Dubaï, qui ont fraudé ou qui ont détourné de l'argent ou qui sont corrompues, ces personnes-là ne seront pas extradées. Donc, c'est une zone de non-droit. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai entendu récemment aussi parler d'une affaire de mafia en Italie où les mafieux avaient mis leur argent à Dubaï. Donc, tant qu'on tolère des pays comme ça, des comportements comme celui-là, on ne résoudra pas le problème, voilà, il va se déporter. Enfin, commençons peut-être par faire le ménage chez nous.
Alors, on va faire le ménage, on va en parler dans un instant, Renaud Van Ruymbeeck. Oui. Mais j'ai noté aussi, en lisant vos mémoires, qui sont passionnantes, parce qu'elles rappellent des dossiers et vous préconisez effectivement un certain nombre de choses. J'ai noté, en lisant ce livre, que la justice américaine, le système judiciaire américain, a un poids important dans la justice internationale.
Oui. Il a un poids important en matière de corruption, surtout parce que les États-Unis ont pratiquement une compétence universelle. C'est-à-dire que dès qu'une opération a lieu en dollars, s'effectue en dollars, ils s'estiment compétents, même si ça ne les concerne pas. Donc c'est à ce titre-là qu'ils interviennent dans beaucoup de domaines. Si une entreprise française corrompt un pays en Asie ou en Afrique, et que l'opération se passe en dollars, ben la justice américaine va s'en emparer. Et la justice américaine, elle a des sanctions extrêmement lourdes, des sanctions financières qui montent à des centaines de millions, voire des milliards de dollars, de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les règles, voilà, qui sont prises la main dans le sac en train de corrompre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que la justice américaine, elle fait un petit peu sa loi.
Alors nous continuons notre voyage, Renaud Van Ruymbeeck. Comme plusieurs autres pays occidentaux, le Royaume-Uni a exprimé un soutien au vaccin Oxford-AstraZeneca cette semaine. Une intervention à la suite d'une étude qui vient de mettre en doute sa performance contre le variant sud-africain et qui a poussé l'Afrique du Sud à suspendre l'utilisation de ce vaccin pour son programme de vaccination. On y reviendra tout à l'heure. Correspondance à Londres de Muriel Delcroix.
Opération pas de panique. Gouvernement, laboratoires et scientifiques se sont efforcés toute la journée de lundi de rassurer les Britanniques et défendre le vaccin Oxford-AstraZeneca. Un Boris Johnson en blouse blanche a ainsi profité d'une visite dans un laboratoire pour se dire pleinement confiant dans tous les vaccins utilisés au Royaume-Uni.
Tous sont efficaces et offrent un haut degré de protection contre les formes graves du virus et empêchent d'en mourir. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, nous avons aussi la preuve qu'il réduit la transmission du Covid. Pour moi, il ne fait aucun doute que les vaccins en général seront notre porte de sortie.
Les scientifiques ont, eux, renchéri en soulignant que le vaccin AstraZeneca fonctionnait très bien contre la souche très contagieuse apparue dans le sud de l'Angleterre et qu'ils préparaient déjà une nouvelle version du vaccin pour faire un rappel à l'automne. Une montée au créneau immédiate de crainte que l'étude menée en Afrique du Sud ne vienne dissuader les Britanniques de se faire vacciner et menace de faire dérailler la grande campagne de vaccination entreprise jusqu'à présent avec succès par les autorités.
L'OMS a annoncé mercredi que le vaccin anti-Covid, donc élaboré par AstraZeneca, pouvait être administré aux plus de 65 ans et dans les pays où circulent des variants. Alors, lors d'un débat devant le Parlement européen à Bruxelles cette semaine, la présidente de la Commission européenne a tenté de justifier les retards dans la campagne vaccinale. Ursula von der Leyen reconnaît qu'il faut faire davantage pour améliorer la production de masse des vaccins.
Nous étions tous très concentrés sur le développement du vaccin. Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. C'est une grande réussite scientifique. Nous devrions en être fiers. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. La production des nouveaux vaccins est un processus très complexe. Il n'est simplement pas possible de mettre en place une site de production du jour au lendemain. De plus, ces vaccins intègrent jusqu'à 400 composants et la production implique jusqu'à 100 entreprises. C'est pourquoi que nous avons créé une task force pour accroître la production industrielle des vaccins. L'objectif est de détecter les problèmes et d'aider à les résoudre. L'industrie doit s'adapter au rythme de la science.
Propos recueillis par Johanna Holstein à Strasbourg. Donc, il faut noter, Renaud von Rumbeck, que dans votre livre, vous soulignez qu'il existe depuis octobre 2019 une procureure européenne. C'est une des conséquences de votre appel de Genève, soulignez-vous. Mais pour vous, ces pouvoirs sont très limités, trop limités.
Ben oui, ils sont d'abord, ils sont limités intrinsèquement, si vous voulez, parce que il n'y a pas d'espace judiciaire européen. Alors, il y a des progrès parce qu'il y a des procureurs qui seront délégués dans chaque pays, parce que l'Europe, c'est compliqué tout ce qui se passe en Europe, mais surtout, son domaine est limité. Il ne porte pas sur la corruption, il ne porte pas sur les trafiquants de drogue, etc. Il porte sur les atteintes aux intérêts de l'Europe, les intérêts financiers européens. Bon, donc, mais c'est déjà une première. C'est-à-dire que là, on l'avait réclamé en 96, vous voyez. Ça a été mis en place 2019, il a fallu attendre plus de 20 ans pour voir apparaître ce procureur européen. Maintenant, il faut lui donner plus de prérogatives, plus de possibilités d'action, notamment dans les domaines, élargir les domaines dans lesquels il peut intervenir, ce qui suppose que les États acceptent de transférer une partie de leurs prérogatives en matière de justice. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire que l'Europe se heurte au nationalisme. C'est une erreur de penser qu'on va pouvoir lutter contre la fraude internationale en restant dans ses propres frontières. On aurait une instance européenne, un procureur européen qui pourrait agir librement sur toute l'Europe, sur toute cette délinquance transfrontalière qui sévit en Europe, on serait beaucoup plus efficace dans la lutte contre les trafiquants de drogue, les mafias et la corruption pour tout cet argent qui trouve refuge en Europe.
Ce qui frappe aussi à la lecture de votre livre, Renaud von Rumbeck, c'est le décalage entre les paroles et les actes.
Oui, c'est-à-dire qu'on a annoncé déjà il y a quelques années qu'il y avait plus de paradis fiscaux, le G20 s'en était emparé, etc. Oui. Bon, moi je constatais en entendant ça à la radio, je constatais que dans mon travail quotidien, il n'y avait rien de changé, si vous voulez. Les obstacles étaient toujours les mêmes. Bon, et malheureusement, ils ont peu évolué. Alors ça a avancé, mais aujourd'hui, le constat est clair, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux. Il n'y a jamais autant d'argent noir. Bon, donc c'est qu'il y a un problème quelque part.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons nous arrêter un instant en France, Renaud Van Rumbeek. En France, où l'avenir de Barkhane était en débat mardi au Sénat, à la demande de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Haute Assemblée, les sénateurs ont débattu en séance publique de l'opération française au Sahel, opération qui mobilise, il faut le rappeler, plus de 5000 soldats. Pour les sénateurs, il est donc plus que temps de s'interroger sur l'avenir de cette opération, alors que les groupes djihadistes, on le sait, continuent de déstabiliser la région du Sahel. Pierre Firsion.
La Haute Assemblée, à majorité de droite, réclamait depuis plus d'un an la tenue d'un tel débat. Le gouvernement y a répondu favorablement et a décidé d'envoyer non seulement Florence Parly, la ministre des Armées, mais aussi Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française, pour défendre sa stratégie au Sahel. Une stratégie que le groupe Les Républicains remet aujourd'hui en cause, son président, Bruno Retailleau.
Le statu quo, qu'il y ait un peu plus de soldats ou un peu moins, ça n'est pas la solution. Je pense qu'il y a une redéfinition et nous esquisserons un certain nombre de pistes et c'est le gouvernement qui devra ensuite, évidemment, avec le chef de l'État, trancher.
La droite n'entend pas pour autant demander un retrait des troupes françaises engagées sur place. Le Parti socialiste n'est pas non plus sur cette ligne. Seuls les sénateurs communistes appellent aujourd'hui à un départ des soldats de Barkhane, à l'image de Pierre Laurent.
La situation du Mali est aujourd'hui tellement déstabilisée qu'il ne faut pas ajouter du chaos au chaos actuel. Il faut donc négocier un agenda de retrait pour lui substituer un autre agenda de coopération avec le pays et oui, organiser le retrait progressif de nos troupes.
Une position qui fait écho à celle des députés de la France insoumise. La question du retrait doit être posée, estimé en décembre Éric Coquerel. L'élu d'extrême gauche réclamait d'ailleurs un débat à l'Assemblée nationale sur le sujet. Une demande restée pour l'heure sans réponse.
Avant de retrouver Renaud Van Rumbeek, notez que le gouvernement a examiné mercredi le très attendu projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, défendant sa vision d'une écologie de bon sens, dixit, alors que la gauche et les ONG jugent ce texte insuffisant. Agnès Rougier.
La proposition de loi Climat et Résilience contient 65 articles décomposés en 6 grands titres issus des propositions de la Convention. Se déplacer, se loger, consommer, produire et travailler, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Pour Grégoire Frati, membre de la Convention, fondateur de l'association Les 150, la loi Climat n'est pas à la hauteur des propositions citoyennes.
En fait, toutes nos mesures sont bien reprises dans cette loi Climat, mais souvent les mesures de la Convention sont un peu rabotées, un peu détricotées. On a changé des temporalités, on a changé un 2025 qui devient 2030. Alors forcément, on est content de voir la mesure sur la table, mais finalement, est-ce que ça répondra aux attentes de l'urgence climatique? C'est une question qu'on se pose. En fait, ce texte pose de bons leviers, mais avec un manque d'ambition. On a l'impression qu'on a toujours un petit peu peur d'aller vite, et c'est cette peur-là qu'il faut réussir à lever avec les parlementaires, parce que les bons leviers, c'est bien de les avoir sur la table, mais l'urgence climatique, il y a le mot urgence, il faut aller vite, il faut faire les choses maintenant, pas les faire demain, et c'est là où on a un peu notre déception, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement veut changer les choses, mais demain, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses.
Le projet de loi devrait être étudié par l'Assemblée nationale à partir de fin mars, et les 150 comptent rencontrer les députés pour les convaincre de le rendre plus efficace.
Suite d'une semaine d'actualité avec notre invité Renaud Van Rumbeek, dans ce livre, parmi vos propositions, il y a une proposition sur le thème, un thème important dans le fonctionnement de la justice en France, c'est le lien entre le parquet et le ministère de la justice qui est au cœur de beaucoup de choses, dites-vous.
Oui, parce que ce lien entraîne une suspicion sur l'indépendance de la justice et sur des enquêtes qui peuvent concerner ça peut être des affaires financières ou politiques ou même d'autres, où on suspecte toujours le pouvoir d'exercer sa tutelle sur les parquets. Alors, le maintien de ce lien n'est pas de nature à rassurer le citoyen sur l'indépendance de la justice. C'est pour ça que moi je propose une réforme radicale qui consiste à couper ce lien, à couper le cordon, et je pense que la justice en retrouvera du crédit. Il faut absolument éviter que le pouvoir exécutif puisse continuer à nommer les procureurs de la République, qui certes ne peuvent plus recevoir d'instructions dans des dossiers particuliers, enfin, qui voient leur carrière dépendre du bon vouloir du ministre de la Justice. Bon, c'est une réforme qui n'a jamais été faite en France, Pourtant, elle devrait être faite comme elle a eu lieu dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, par exemple en Italie, où les procureurs sont totalement indépendants, ce qui donne quand même du crédit à l'action de la justice. Donc c'est des propositions que je fais dans le livre, en disant, en même temps, on peut pas laisser non plus les juges s'auto-gérer entre eux. Donc il y a un organe qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature qu'il faudrait rénover, élargir, lui donner plus de légitimité, plus, j'allais dire plus de citoyenneté, pour qu'il puisse contrôler le fonctionnement effectif de la justice.
Dans ses mémoires, Renaud Van Rumbeek, vous notez aussi que les juges d'instruction ont moins de dossiers financiers aujourd'hui. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce que les procureurs gardent de plus en plus les dossiers entre leurs mains. Ils ont des pouvoirs qui ont été renforcés. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu des lois qui renforcent les pouvoirs du parquet. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'affaires, et même des affaires financières, qui sont menées par le parquet et par les procureurs, qui ne saisissent pas les juges d'instruction. Et avec cette difficulté également, c'est que lorsque les procureurs font des enquêtes préliminaires, c'est comme ça que ça s'appelle, l'avocat n'a pas accès au dossier. Donc au niveau des garanties, des droits de la défense, c'est pas du tout satisfaisant. Et c'est pour ça que ce qui est paradoxal, c'est que ces parquets qui gardent de plus en plus les dossiers et qui remettent ces dossiers ne présentent pas les garanties d'indépendance que présentent les juges d'instruction.
Vous pensez au parquet financier, par exemple, à Paris ?
Ah oui, comme d'autres, bien sûr, pas celui-là comme d'autres. Ceci dit, la création d'un parquet national financier qui remonte à l'affaire Cahuzac, hein, 2013, c'est une bonne chose parce que on spécialise des magistrats dans des matières qui sont très techniques, où il faut des relations avec l'étranger, parce qu'en réalité les enjeux sont en dehors de nos frontières, puisqu'il faut aller chercher des comptes dans des paradis fiscaux, etc. Donc la centralisation et la spécialisation, c'est une bonne chose. Maintenant, le procureur financier, il reste un procureur, donc il est dans ce système que personnellement, je n'approuve pas. Je pense qu'il faut maintenant laisser la justice totalement indépendante et créer un véritable pouvoir judiciaire.
Ça serait la marche finale vers une indépendance. Quand on lit ce livre, ces mémoires et toutes les affaires que vous avez instruites, Renaud Van Rumbeek, on se dit quand même qu'on revient de loin, hein, parce que depuis le meurtre du ministre Boulin 79, je parle pas de l'affaire Elf, l'affaire Urba, donc on s'aperçoit que les relations entre la politique et la justice ont évolué quand même.
Oui, il y a une évolution, c'est-à-dire que ça s'est fait dans la douleur. C'est-à-dire
oui.
Bon, j'y ai participé, d'autres juges y ont participé, mais on s'en est pris plein la figure. Je veux dire, on a eu des attaques, on a eu des tentatives de déstabilisation, de manipulation, etc., de discrédit surtout. Et malgré tout, la justice a évolué, elle s'est émancipée. Mais c'est pour ça que le constat que je fais aujourd'hui n'est pas tout à fait celui que je faisais quand je suis rentré dans la magistrature. Il y a une émancipation. Mais c'est une émancipation de fait. Mais en droit, nos institutions n'ont guère évolué. Donc, il y a un décalage et il y a toujours la possibilité pour le pouvoir exécutif de reprendre en main l'action des parquets. Il faut savoir que les juges d'instruction sont saisis par les procureurs de la République des enquêtes. S'ils ne les saisissent pas, ben, le juge d'instruction n'a plus rien à faire. Donc, il y a eu cette évolution qui est considérable, et j'ai voulu justement décrire dans le livre cette période charnière qui a été la mienne. C'est-à-dire que j'ai connu une époque, effectivement, où on étouffait les affaires. Il a fallu se battre contre l'étouffement, et malgré ça, il y a eu des affaires étouffées. Mais depuis, on a beaucoup évolué, et aujourd'hui, on n'étouffe plus les affaires. Mais c'est une situation qui reste précaire, c'est une évolution de fait, voilà, mais qui n'a pas été consacrée. C'est pour ça qu'il faut une grande réforme de la justice, assurant réellement l'indépendance notamment des procureurs.
Renaud Van Rumbeek, nous allons parler dans un instant de l'Afrique.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc. Merci pour vos messages et un salut à quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent comme chaque samedi. Je salue Innocent qui nous écoute à Garoua au Cameroun, Alpha Idi à Conakry. Un bonjour à Mohamedou à Maroua, à Latifou qui est étudiant à Parakou. Bonjour à Isaac à Cotonou, à Koli à Dakar, à Abacha à Lomé et à Eric Chama à Kinshasa.
Une semaine d'actualité.
Direction l'Afrique du Sud maintenant. Samedi dernier, nous vous parlions de l'événement que constituait l'arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19. Depuis, les Sud-Africains ont dû déchanter avec la suspension provisoire de la campagne de vaccination. Elle devait commencer dans les prochains jours avec le vaccin AstraZeneca, encore lui. Plus d'un million de doses ont été commandées, l'équivalent du nombre de soignants dans le pays. Mais une étude réalisée par une université de Johannesburg montre que ce vaccin est moins efficace sur le variant sud-africain. La déception est grande donc chez les personnels de santé, notamment Romain Chanson.
Comme plus de 34 000 soignants, le docteur Francesca Conradi s'était inscrite en ligne pour recevoir le vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination était imminente. L'annonce de sa suspension porte un coup au moral de Francesca.
Franchement, ça me déprime un peu. Pour autant, je continue à penser que les vaccins sont la solution. Parmi mes collègues, les infirmiers et infirmières avec qui je travaille sont un peu plus hésitants. Mais grâce à mes connaissances scientifiques, il suffit que je leur explique de façon rationnelle comment fonctionne les vaccins, et ils sont volontaires pour se faire vacciner.
Les mauvais résultats du vaccin AstraZeneca risquent de saper la confiance d'une partie des personnels de santé qui étaient réticents à se faire vacciner. C'est la crainte de Kevin Alama, porte-parole du syndicat hospitalier Ospersa et qui représente 60 000 salariés.
C'est très décevant. Après tout le travail de terrain que l'on a fait auprès de nos membres pour faire accepter la campagne de vaccination, et maintenant on fait un pas en arrière. Notre position est claire. Nous supportons le processus de vaccination, peu importe d'où provient le produit.
Désormais, ce sont les doses du vaccin Johnson & Johnson qui sont attendues dans les prochains jours pour essayer de relancer une campagne de vaccination.
Je vous rappelle qu'au Mali, un nouvel accord de paix a été signé dimanche dans le cercle de Bankass, dans le centre du pays. Il concerne les communautés Dogon, Dafing et Peul de 7 communes différentes. C'est le 4e accord de paix signé dans cette région du Mali depuis juin 2020. En Centrafrique, la situation des nouveaux déplacés inquiète les humanitaires. Ils sont environ 240 000 à avoir quitté leur foyer depuis le début des affrontements en mi-décembre. Certains ont fui à l'étranger, d'autres à quelques kilomètres de chez eux, comme par exemple sur le site de l'école Oufouet-Boigny du PK-22 à une vingtaine de kilomètres au nord de Bangui. 2500 déplacés y sont installés. Ils ont fui une incursion rebelle dans leur village et les combats qui s'en sont suivis, malgré l'immense précarité dans laquelle ils vivent, la plupart n'envisagent pas de rentrer. Reportage de notre envoyée spéciale Florence Maurice.
Assise sur un tabouret, Anne, 63 ans, fait bouillir quelques feuilles de manioc glanées dans les environs. Il y a 3 semaines, elle a fui sa maison située à l'entrée de son village. Elle est, dit-elle, la première à avoir vu les rebelles arriver.
Je les ai vus arriver alignés en colonne. J'ai abandonné tout ce que je faisais et j'ai fui en brousse. Tout est cassé dans le village, les toits, les portes des maisons. J'ai trop peur d'y retourner.
Alphonsine, elle, a tenté de revenir sur ses pas, mais le terrible spectacle qui l'attendait l'a découragée.
J'avais caché quelques affaires en brousse. Quand je suis retournée les chercher, j'ai vu plein de cadavres. Il y a des cadavres dans le village. Ils n'avaient pas été enlevés. Je ne peux pas y retourner.
Les combats qui ont opposé rebelles et forces armées ont été violents, raconte Honoré Bassango, coordonnateur du site de déplacés. Des combats qui ont laissé des traces.
Sur le village qui est attaqué là, il n'y a plus personne. Tout est cassé et puis là-bas c'est tellement horrible. Et même il y a des obus qui sont tombés, qui ne sont pas encore éclatés. Ça fait que les gens ont peur de revenir là-bas.
Beaucoup ont également perdu leur bétail en fuyant et ignorent comment, même une fois de retour, ils pourront nourrir leur famille.
Avant de retrouver Renaud Van Ruymbeke, partons pour le Sénégal. Des campements abandonnés dans une forêt dense, des saisies d'armes, de munitions et de matériel au Sénégal, en Casamance précisément. L'armée assure que la situation est sous contrôle à la frontière avec la Guinée-Bissau après 2 semaines d'opérations contre les positions des combattants du MFDC. La région au sud du pays est agitée depuis près de 40 ans, il faut le rappeler, par un conflit latent entre l'État et la rébellion qui réclame l'indépendance. Très divisée sur fond de trafic de bois et de cannabis, cette récente opération inédite et musclée a permis de déloger les hommes armés sur le front sud. Mais le problème de fond est-il réglé ? Reportage de Charlotte Hydrac.
Les plants de cannabis sont parfaitement alignés, un puits, de l'engrais, mais aujourd'hui, plus personne pour entretenir le champ. Colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5.
Il s'agissait de créer les conditions sécuritaires pour favoriser le retour des populations dans leur bercail qu'elles ont abandonné ça fait 30 ans. Le deuxième objectif, c'est de nous rétablir sur la frontière avec la République de Guinée-Bissau, avec qui il y a une coopération opérationnelle militaire. Le dernier objectif, c'est détruire tous les champs de chanvre indien qui nourrissaient l'économie criminelle.
Ne marchez pas sur les explosifs.
À 60 km au sud-est de Ziguinchor et près de 3 heures de pistes sablonneuses, au milieu des arbres, un campement déserté. Par terre, vêtements, bidons ou encore médicaments. L'armée a récupéré des armes, des munitions, mais aussi des motos, calèches et une quinzaine de vélos. 8 km plus loin, Sikoun, une base symbolique du MFDC, également un sanctuaire mystique. Lieutenant-colonel Clément Hubert Boucal, commandant du bataillon des commandos.
Sikoum est un passé historique. Toute cette zone est aujourd'hui une zone où se pratiquent des activités illicites.
Y a-t-il eu des prisonniers ou des victimes ? Pas de bilan humain annoncé. Lors de son repli, le chef MFDC de Sikoun, Adama Sané, affirmait « Nous avons perdu le front, mais pas la guerre ».
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de l'ancien juge Renaud Van Ruymbeke qui vient de publier des mémoires d'un juge trop indépendant. Dans ce texte, Renaud Van Ruymbeke, on sent très bien votre colère quand il s'agit de l'argent sale dérobé à l'Afrique, en quelque sorte. Vous rappelez dans votre livre, je cite, que la Conférence des Nations Unies sur le développement a publié donc en septembre 2020, le 28 septembre 2020, un rapport évaluant à au moins 76 milliards d'euros par an l'évasion de capitaux d'origine illicite en Afrique. Toute la question est de savoir comment on peut lutter contre cet argent sale et cette corruption et ce détournement.
Alors, effectivement, ce sont des chiffres énormes et je veux dire, le constat est terrible. C'est-à-dire que vous imaginez ce qu'on pourrait faire en Afrique avec 76 milliards d'euros ou de dollars. Enfin, c'est hallucinant de voir qu'il y a autant d'évaporation et c'est des détournements des richesses des pays au détriment des populations qui sont de plus en plus pauvres. Bon, on le constate malheureusement aujourd'hui. Mais à côté de ça, certains s'enrichissent.
Alors vous notez Renaud Van Ruymbeke également, je vous cite à nouveau, j'ai en mémoire la fortune du général Abacha qui a dirigé d'une poigne de fer le Nigeria. Il est décédé en 1998, il aurait détourné des milliards de dollars. Les procureurs suisses ont réussi dans les années 2000, au terme d'un travail minutieux, à identifier et récupérer plusieurs centaines de millions de francs suisses. Des négociations ont été menées depuis pour que la Suisse les restitue au Nigeria en les investissant dans des écoles et des hôpitaux. Voilà un exemple à suivre.
C'est un exemple à suivre. Simplement, à l'époque, on a évoqué des milliards de dollars. On est à quelques centaines de millions. Oui. Bon, voilà, c'est-à-dire que... Et où elle reste, hein, où elle reste. Et malheureusement, alors le cas du général Abacha est caricatural, puisqu'on dit qu'il avait plein de valises de billets chez lui, mais enfin, il n'avait pas que ça. Il avait surtout... c'est là que l'Occident, entre guillemets, il trouve aussi son compte. C'est que cet argent, il n'est pas dans les pays africains. Il est en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, à Singapour, à Dubaï, je ne sais où. Donc il est caché. En fait, il y a des sommes énormes qui sont détournées, d'abord qui sont détournées directement dans les caisses publiques, hein, par des faux virements sur des fausses sociétés offshore, pour des prétendues prestations. Et vous avez aussi, deuxième mécanisme que j'ai observé, vous avez des entreprises qui obtiennent des marchés là-bas, dans les pays africains, et qui arrosent au passage. Alors, souvent elles ne le font pas directement parce que ça serait trop visible, mais il y a des intermédiaires, il y a des proches, etc., qui font le boulot, si j'ose dire. Donc cet argent, il n'est pas perdu pour tout le monde, croyez-moi. Et c'est dramatique de voir ça, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut nettoyer ces paradis fiscaux, parce que il est temps de mettre fin à ce pillage. C'est un véritable pillage dont sont privées les populations sur place. Ce sont celles qui en ont le plus besoin, en plus.
Alors la question que vous vous posez est celle-ci. Que faire face à ces détournements de milliards d'euros ou de dollars? Vous dites par exemple qu'il faudrait saisir et confisquer les grandes fortunes, enfin ces grandes fortunes masquées.
Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait exiger des pays, de tous les pays où ils trouvent refuge, une transparence et qu'on sache qui se cache derrière telle société panaméenne ou telle société des Bahamas qui détient tel compte et tels avoirs. Et ces avoirs-là, il faudrait les confisquer et les restituer, non pas aux pays, évidemment, aux paradis fiscaux, mais aux pays qui sont spoliés, c'est-à-dire aux pays africains, comme l'exemple de la Suisse là sur le général Abachas, qui font avec les centaines de millions qu'ils ont pu récupérer, c'est très bien, ils font en sorte que ça soit restitué à la population qui en bénéficie dans des hôpitaux, dans des écoles. Enfin, vous savez, ça paraît tellement évident quand on fait ce constat qu'on se dit, mais dans quel monde on est, dans quel monde on vit?
Et justement, vous étiez bien placé, ô combien bien placé, Renaud Van Rumbeek, pour mesurer l'étendue de cette question. Ce que vous venez de dire paraît évident et pourtant il y a des résistances. Pourquoi le pouvoir politique agit si peu?
Écoutez,
en tout cas si lentement.
Oui, d'abord, le problème n'est pas simple à régler parce que c'est un problème de régulation mondiale. C'est pas chaque État dans son coin qui va régler le problème. Il faudrait déjà régler le problème dans les pays qui sont l'objet de ces pillages, c'est-à-dire ces pays africains où vous avez beaucoup de dictatures, hein, parce que dès lors qu'il y a dictature, il y a corruption. Ça marche aussi dans les démocraties, mais ça marche surtout dans les dictatures puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de presse libre. Il n'y a pas de justice libre, donc ceux qui sont au pouvoir peuvent puiser dans les caisses sans se faire prendre et sans que personne ne fasse d'enquête sur eux. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Donc il faut effectivement un processus démocratique, il faut une justice qui soit indépendante, il faut des juges indépendants, et puis il faut aussi que, à l'échelle mondiale, on montre du doigt les pays qui cachent cet argent et qui en vivent. Voilà. Et sortir un peu du bois ceux qui détournent les fonds. Parce que ceux qui détournent les fonds, ils les cachent dans ces pays-là. Donc si on avait une vraie transparence dans ces pays-là, et les grandes démocraties pourraient l'exiger, hein, sous peine de sanctions commerciales, elles le font pas. Bon, ben, elles le font pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de volonté politique internationale. Point barre. C'est ça le problème. Et justement, c'est ce que j'ai voulu aussi dénoncer dans le livre, et c'est ce qui m'a aussi motivé, c'est j'ai eu l'occasion pendant 20 ans d'explorer tous ces circuits. Les enquêtes ont parfois abouti, il y a eu des saisies, parfois elles n'ont pas pu parce que certains pays ne coopéraient pas, mais j'ai bien vu comment fonctionnaient ces circuits, j'ai voulu les expliquer, voilà, pour que chacun comprenne, et les dénoncer en même temps, voilà, en disant, mais il n'y a rien de on peut toujours changer les choses sur Terre, heureusement ça peut évoluer, j'espère que ça évoluera dans l'avenir, et il est urgent de mettre fin à cette situation.
Mais les choses peuvent évoluer aussi à la base, c'est-à-dire c'est aux populations de s'exprimer, c'est ce que font aussi les journalistes, c'est-à-dire de mettre au grand jour tout ça.
Oui, mais à condition qu'ils soient libres, à condition qu'on ne les mette pas en prison, à condition qu'on laisse les manifestations se dérouler. Regardez, vous en avez cité, regardez ce qui se passe en Birmanie ou ailleurs. Bon, ben voilà. Donc, si les gens se révoltent, oui, mais si le bâton est là pour les corriger, les mettre en prison, et voilà, c'est tout le problème de ces régimes dictatoriaux qui sont souvent synonymes de corruption, hein, parce que tout est permis. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir et aucun contre-pouvoir, vous faites ce que vous voulez.
Merci Renaud Van Rumbeek. Il faut lire votre livre qui s'intitule « Mémoire au pluriel d'un juge trop indépendant ». Ce livre est publié aux éditions Talendier. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain, bien sûr, pour le magazine Idée. Et nous parlerons cette fois-ci du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, et plus précisément de l'œuvre de Diderot. Demain dimanche, 16h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Je rappelle que la devise des Lumières, c'est « Pense par toi-même ». Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.